comme les meilleurs parents du monde, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie ainsi que toute l'équipe de Priorité Santé de vous retrouver en direct pour notre émission, votre émission, qui chaque jour de la semaine répond, nous l'espérons, hein, à toutes vos questions sur la santé au quotidien. Ravie de vous retrouver en cette rentrée qui, pour des millions d'élèves et d'enseignants, signe le retour des horaires, de la ponctualité, des obligations, bref, redémarrer, reprendre le bon rythme, des journées ponctuées par une série d'échéances, une cadence à respecter entre les besoins physiologiques, le sommeil, l'alimentation et le temps que nous consacrons à notre famille, au transport, le temps éducatif ou domestique et bien sûr au travail. Une cascade de rendez-vous qui, pour beaucoup, ne sont pas forcément compatibles avec la sérénité. Nouvel emploi du temps, avec lui, de nouvelles priorités se dessinent. Il faut composer, s'adapter, avec pour certains cet enchaînement source de stress, source d'anxiété. Comment expliquer cette tension nerveuse, ce sentiment d'être parfois envahi, submergé, surtout par quels moyens s'en débarrasser? Est-ce que c'est possible de repérer les signes qui doivent alerter, éviter le stress? Notre sérénité au quotidien, quels conseils, quelles méthodes? On attend bien sûr vos questions sur la page Facebook de l'émission et comme chaque jour au 33 84 22 75 75. Avec nos deux invités en studio pour répondre à toutes vos questions, Mamadou Mbodj, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes docteur en psychologie clinique, psychopathologie également. Mamadou Mbodj, oui j'y arrive, c'est le début, il faut s'y remettre, hein, c'est difficile pour tout le monde. Vous êtes psychologue, psychothérapeute à Dakar au Sénégal et avec nous également Patrick Fiorletta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sophrologue, directeur de l'école Lorraine de sophrologie caïcédienne. Vous nous expliquerez ce qui se cache derrière ce mot, derrière votre spécialité. Vous êtes aussi, Patrick Fiorletta, ma sœur kinésithérapeute à Essais-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, c'est dans l'Est de la France. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Alors bien sûr, aujourd'hui pour certains c'est la rentrée, pour d'autres non, grand redémarrage, reprise des rythmes, ce calendrier pour chacun d'entre nous au travail, à l'école, à la maison, une notion de rythme justement. Mamadou Mbodj, est-ce que c'est une plainte récurrente de vos patients, des gens qui disent « j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau, j'ai l'impression d'être stressé » ?
Oui, mais souvent c'est plus pour exprimer de l'anxiété qu'un véritable stress, si vous voulez. Pour exprimer l'anxiété, pour exprimer le sentiment qu'il ne s'y retrouve plus, qu'il y a trop de choses à faire. Parce que malheureusement, on en est arrivé aujourd'hui à notre corps défendant à faire en sorte que tout est devenu prioritaire, urgent. D'accord ? On ne sait plus trier, on ne sait plus faire la part des choses, on ne sait plus prioriser dans ce qu'on a, ce qu'on doit faire. Alors que quotidiennement ou de manière hebdomadaire ou mensuelle, on fait le tri dans sa maison, on nettoie, on range, mais je vois pas pourquoi on ne le fait pas dans sa propre vie. S'interroger à un moment donné, voir tout ce qu'on a à faire, dans ses priorités, quelles sont les priorités des priorités, qu'est-ce qui est secondaire, quelles sont les futilités souvent qui nous paraissent prioritaires aussi, pouvoir les écarter. Donc souvent quand les gens parlent de beaucoup dans le langage, j'ai souvent tendance à considérer que le mot stress dans le langage déjà est un abus de langage, où on veut plus parler de d'anxiété, je ne m'y retrouve plus, mais quand on les écoute, ce n'est souvent pas le stress, en tout cas au sens propre du terme, si vous voulez, qui est quand même un état et un sentiment de désarroi, un sentiment de souffrance, d'anxiété profonde, un sentiment où l'individu est persuadé qu'il n'est plus maître de la situation, qu'il ne dispose plus des moyens habituels qu'il avait de faire face, si vous voulez, et que qu'il est confronté à une situation ou professionnelle ou familiale ou conjugale, ou en tout cas une situation relationnelle toxique, si vous voulez, qui lui pollue l'existence et face à laquelle il ne peut plus rien faire.
Alors vous parlez de situation toxique, mais en même temps on sait qu'il y a du stress donc qui fait mal, et puis il y a du bon stress, Mamadou Mbodj.
Oui, le terme, l'acception la plus courante, on parle du mauvais stress, si vous voulez. Là où on est vraiment en phase d'épuisement, d'accord, qui peut conduire à des troubles psychosomatiques divers, hein, à une paralysie, où il y a une patiente qui parlait d'un casque chimique, elle disait que vraiment, elle avait ce casque et dans la tête et dans le corps, qu'elle ne pouvait plus bouger, qu'elle
ne pouvait plus réfléchir. Une douleur, un ressenti physique.
Un ressenti physique, qu'elle ne pouvait plus organiser sa journée, sa mémoire était défaillante, elle savait plus, elle pouvait faire un rapport la veille, le lendemain, elle avait oublié qu'elle avait fait le rapport et passait la journée à refaire un rapport qu'elle avait déjà fait.
Alors, on comprend avec un tel impact que ça puisse avoir des conséquences sur la santé corporelle, sur la santé tout court.
Absolument. C'est-à-dire qu'à terme, il menace tout le système immunitaire, finalement. D'accord ? Et peut aller même jusqu'à une dépression. D'accord ? On a même vu des tentatives des passages à l'acte, si vous voulez, de gens qui avaient vraiment le sentiment que la vie ne rimait plus à rien, tellement ils étaient englués dans ces relations toxiques, hein, avec beaucoup de souffrance et que personne ne semblait prendre au sérieux.
Alors justement, si vous voulez, ça vous fait directement répondre à une question qu'avait formulée Michel, hein, sur notre page Facebook de Ouagadougou. Est-ce que le stress peut conduire à la dépression ? Elle a compris.
Oui,
la réponse, c'est oui, justement. Ce rythme de vie, ces obligations qui se télescopent, Patrick Fiorletta, est-ce que vous aussi, on l'a dit, vous êtes masseur kinésithérapeute et sophrologue, c'est pour ça que vous êtes invité aujourd'hui. Est-ce que les patients qui viennent en consultation lâchent ce fameux mot, cette fameuse plainte sur le stress ?
Oui, bien évidemment. Quand ils viennent en consultation, ben c'est peut-être aussi pour faire une pause, hein, notamment en fin de journée, quand les personnes viennent après leur travail, ben on sent qu'il y a de l'endormissement, on sent que si on les laisse tranquilles quelques instants, et ben ils récupèrent complètement. Et je pense que c'est le rythme effréné aujourd'hui, le rythme qui nous est donné aussi par la communication internet, par faut toujours être disponible, présent sur les réseaux, sur son téléphone, font que il y a pas de temps de pause. Et je crois que l'être humain, le propre de l'être humain, c'est un animal diurne, il est éveillé le jour, il dort la nuit, et donc s'il n'y a pas les deux phases, l'existence peut devenir rapidement un enfer.
Respecter ces cycles naturels, on va parler justement de votre spécialité, hein, la sophrologie, commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme et précisément l'association des deux termes, sophrologie caïcédienne ?
Ben, sophrologie, le professeur Caicedo avait créé ce mot-là pour, c'est un neuropsychiatre, hein, en opposition à schizophrénie, c'est-à-dire schizophrénie, littéralement, c'est la conscience qui est fragmentée, qui est éclatée, alors que la sophrologie, ça va être la conscience qui est intégrée, hein, qui au contraire rassemble la conscience en harmonie. Ça, c'est pour le premier mot. Caïcédienne, ben parce que justement, au fur et à mesure du temps, chacun s'est approprié la sophrologie depuis sa création en 1960, et il y a eu des dérives, et à un moment donné, le professeur Caicedo s'est dit, je vais quand même déposer à l'INPI mon code de déontologie, les principes, les structures de ma méthode pour qu'elle soit pérenne dans le temps. Et c'est pour ça que le qualificatif caïcédien est un gage de qualité et d'une sophrologie authentique par rapport à son créateur.
Alors plusieurs praticiens peuvent la dispenser, Patrick Fiorletta, aussi bien dans le milieu éducatif que dans le milieu médical.
Tout à fait. Les applications sont transversales pour tous les travailleurs qui sont dans la relation humaine, je pense, hein, les enseignants, les travailleurs sociaux, les soignants particulièrement, pour l'être aussi, on peut utiliser la sophrologie caïcédienne et mobiliser les capacités des personnes qu'ils ont en charge pour réaliser des objectifs à court terme ou à long terme.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'une méthode de relaxation ou est-ce que c'est limité ?
La relaxation, c'est le point de départ de la sophrologie caïcédienne, mais ce n'est pas uniquement une méthode de relaxation. Je crois que la sophrologie, c'est un entraînement basé sur des techniques de relaxation, bien sûr, mais aussi d'activation du corps et de l'esprit pour développer la sérénité, dont on en parlait juste avant, et le mieux-être. C'est-à-dire que le sophrologue va accompagner, c'est pas forcément un soignant, donc il accompagne Et ses objectifs, eh ben, ça va être de renforcer les attitudes positives au quotidien et les valeurs aussi de chaque personne pour pouvoir ben, tenir le coup par rapport à ce rythme effréné.
Et sur ce calendrier des séances, on va dire, ça dure combien de temps? Ça s'organise comment? Et est-ce que ces séances se répètent, sont identiques les unes après les autres ou est-ce qu'elles évoluent?
Alors, tout dépend si les séances sont en individuel ou en groupe. Quand nous sommes en groupe, il va y avoir un objectif, on va dire, d'intérêt général, voilà. Et on va peut-être en 8-10 séances arriver à donner tous les outils pour que chaque personne, suivant ses besoins, puisse aller puiser dans les techniques ce dont il a besoin pour améliorer sa qualité de vie. En individuel, ça va être plutôt sur des demandes ponctuelles, par exemple une préparation aux examens, une amélioration de la qualité du sommeil, et là, à ce moment-là, on va, sur 3-4 séances, donner des enregistrements, parce que le but aussi, c'est de viser l'autonomie, pour que la personne puisse arriver à ses fins et remplir ses objectifs.
Alors justement, sur cette quête de sérénité, Mamadou Mbodj, est-ce que vous voyez des patients venir, par exemple, qui ont eu des pathologies lourdes, qui viennent parler avec vous de ce stress en disant « voilà, j'ai soigné mon corps, maintenant j'ai besoin de soigner mon esprit ».
Oui, et c'est souvent le cas, et même il nous arrive concomitamment, parallèlement à ce suivi en psychothérapie, qu'on les oriente vers certaines thérapeutiques, disons plus douces, hein, notamment le yoga ou la réflexologie, hein, ou la sophrologie, lorsque ces thérapeutiques sont accessibles. Hein, il nous arrive de les accompagner, mais j'ai toujours préconisé, si vous voulez, en amont ou en même temps, une psychothérapie pour quand même aller chercher, dénouer certains nœuds, si vous voulez, notamment au niveau du stress développé par ces personnes, l'idée de mort qui est là, souvent sous-jacente, comment les aider déjà à se rassurer à l'idée que l'essentiel a été fait et que maintenant il faut que la vie continue, qu'ils ne peuvent pas passer le restant de leur vie à penser à la mort, mais que l'essentiel des soins a été fait, les conséquences, les effets secondaires de ces soins sont plus ou moins neutralisés, atténués par ces thérapeutiques secondaires, et que bon, mais il faut que la vie continue, que la vie reprenne, qu'ils reprennent progressivement la vie et les amener, si vous voulez, à pouvoir parler, parce qu'ils ne peuvent pas en parler en famille. Quand ils en parlent à leur médecin, celui-ci a tendance à dédramatiser, d'accord, ou il n'a pas le temps, donc ils ne peuvent en parler que chez le psychothérapeute, si vous voulez, qui fait un travail d'accompagnement, de dédramatisation.
Retrouver ce temps d'écoute. On va continuer à parler de la sérénité, hein, de ce bien-être, ces conseils anti-stress. Et on donne tout de suite la parole aux auditrices et aux auditeurs de Priorité Santé. On part pour Haïti, pour commencer, Port-au-Prince, où l'on vous retrouve. Neftali, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et merci de vous être levée si tôt, hein, pour être en direct avec nous dans Priorité Santé. Neftali, allez-y, on vous écoute.
Voilà, je suis quelqu'un de tout le temps stressé. J'ai été comme ça depuis l'école classique. Maintenant, je suis adulte, mais je suis toujours stressée. Sortir de la rue, pour moi, est stressant depuis longtemps. Mais maintenant, avec l'insécurité qui règne ici, c'est encore pire. Je voulais, parce que ça m'empêche de vivre à fond ma vie, de faire des choses que j'aime. Et je voulais savoir, est-ce normal d'être tout le temps stressé? Et est-ce le stress est-il une maladie? Et comment s'en sortir si c'est une maladie?
Est-ce que vous avez une activité professionnelle, Neftali?
Non, pas vraiment.
Et du coup, vos journées, vous les occupez comment? Vous êtes très occupé ou finalement ce stress, même si vous êtes à la maison tranquillement à faire une activité de loisir, vous ressentez quand même cette pression?
Oh oui, tout le temps.
Et pour vous, c'est vraiment lié à l'actualité ou c'était bien avant, depuis toujours, ce sentiment d'une certaine manière d'insécurité et d'angoisse?
Ben, l'insécurité augmente le stress, mais je suis, disons, entre guillemets, hyper stressant tout le temps.
Neftali, est-ce que vous dormez bien?
Parfois, j'ai des insomnies, mais ça va.
Mamadou Mbodj, qu'est-ce que vous pouvez demander et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Neftali qui est en ligne avec nous de Port-au-Prince?
C'est-à-dire qu'on ne voit rien qui ait pu être à l'origine de ce stress. Je pense qu'il y a une très grande anxiété qui est là. Une anxiété alimentée maintenant par un peu un désœuvrement, si vous voulez. Hein, si on, effectivement, vous êtes sans travail, c'est déjà insécurisant. Vous êtes à la maison. Vous avez donc tout loisir de réfléchir, de penser, mais j'ai l'impression que finalement vous réfléchissez en boucle, quelque part. Une réflexion qui n'aboutit pas sur une recherche de travail, ou en tout cas sur l'obtention d'un travail, ni la création d'un travail. Je pense qu'il faudrait peut-être sortir un peu, d'accord ? Parce que vous dites... que vous avez toujours été stressé dès votre réveil, etc. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre quotidien, au niveau familial ou au niveau conjugal, qui puisse en rajouter à votre anxiété?
Vous avez du lien social, Neftali? Est-ce des amis, avez... des proches?
Oui, j'en ai beaucoup, mais
oui.
Ça
ne
résout pas la chose.
Pardon?
Ça résout pas la chose et vous en parlez avec eux, vous échangez justement sur ce sentiment que vous avez, parce que vous avez l'air déterminé à faire pas mal de choses, mais en même temps de faire du surplace, vous en parlez avec eux?
Non, j'ai l'impression que eux aussi ont leur stress à eux, mais c'est pas, je dis que c'est pas normal d'en rajouter.
Oui.
Je parle pas trop.
Mais est-ce que vous cherchez du travail activement?
Oui.
Oui, parce que vous savez, le stress, vous en parlez, mais faut d'abord comprendre que le stress, dans un premier temps, est une modalité, une manière de s'adapter à l'environnement, une manière de réagir face à l'environnement, d'accord ? Que ce soit l'environnement familial, que ce soit l'environnement conjugal, que ce soit l'environnement professionnel, d'accord ? Maintenant, cette adaptation, elle peut être positive en nous poussant à donner le meilleur de nous-mêmes, comme ça peut être une adaptation négative, si vous voulez, et là, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Alors, cette adaptation, ce stress dont vous parlez, il peut être positif s'il vous aide, si vous voulez, dès le matin, à établir un programme de la journée. Est-ce qu'il faut aller chercher des emplois? Est-ce qu'il faut se mettre sur l'ordinateur pour commencer à chercher, envoyer des CV? Est-ce qu'il faut entrer en contact avec des gens? Est-ce qu'autour de vous, des gens susceptibles de vous aider savent que vous êtes sans emploi? Il y a toutes ces initiatives, si vous voulez, que le stress peut vous aider à rendre opérante comme initiative. Mais si vous devez rester toute la journée cloîtré à la maison à lire ou à écouter des émissions, le week-end ça va, en fin de journée ça va, mais si ça doit être toute la journée, vous ne faites qu'alimenter encore cette anxiété qui à terme évidemment va générer du stress.
Et puis j'ai vu quand vous avez préparé l'émission avec l'équipe, vous avez dit je pense à commencer à fumer car on dit qu'on stresse moins quand on fume. Alors je suis pas médecin, mais par contre une chose de certaine, fumer ça améliore pas la situation générale, hein. Pour se déstresser, par exemple, on conseille plutôt l'activité physique. Neftali, est-ce que vous faites de l'activité physique?
Oui, je cours parfois.
Je pense que c'est aussi un conseil qui est souvent donné, de faire du sport, courir, comme on disait tout à l'heure, voir des gens sortir, ne pas rester enfermé dans ce cocon qui n'est plus protecteur. Absolument. Justement pour redonner un petit peu de couleur dans sa vie.
Parce que,
d'accord, merci.
Oui, le vrai stress, et je ne le dis pas pour vous faire peur, mais le vrai stress va commencer à se manifester à partir du moment où vous n'aurez plus l'impression de gérer quoi que ce soit. Et il faudrait éviter d'en arriver à cet extrême.
Romain, vous dites que vous faites des ateliers, vous êtes quand même créative, alors n'hésitez pas, faites ces ateliers, remettez un peu de couleur dans votre vie, et surtout,
absolument,
ne vous mettez pas à fumer, hein. C'est pas la peine,
ouais.
Franchement. Vous vouliez réagir, oui, bien sûr, Patrick Fioretta qui est avec nous en studio, ouais, allez-y.
Alors, moi je pensais particulièrement dans ce cas-là à avoir peut-être des projets positifs, faisables, c'est-à-dire accessibles, quelque chose qui vous fait plaisir pour chaque jour, trouver un petit projet positif et surtout apprécié la réalisation de ce projet avec toute votre corporalité, avec tout votre esprit pleinement. Et je pense que l'action positive, l'affect positif comme ça, orienté vers une chose à faire ou des amis ou quelque chose qui vous motive, va peut-être vous redonner de la motivation petit à petit, mais il faut être gentil avec soi, c'est-à-dire qu'il faut une progression lente, pas forcément se dire tout va aller bien ou tout va complètement mal, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se fait pas à pas. Et l'intention d'un petit projet positif journalier peut être très intéressante pour vous.
Voilà tous ces conseils. Neftali, on vous souhaite une excellente journée à Port-au-Prince. On va partir pour Douala, pour le Cameroun, où nous sommes en ligne avec Claude. Bonjour Claude.
Bonjour Caroline, bonjour à vous tous, bonjour à tous vos collaborateurs.
On est tous à votre écoute, allez-y.
Vraiment, je suis ravi de repasser dans cette antenne, excusez-moi. Et je me nomme Claude Mosseau, j'appelle depuis Douala, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, allez-y.
Bonjour à vos deux invités, Madombo, c'est Patrick. Et voilà, j'ai un souci, c'est qu'en fait, j'ai comme une sorte d'accumulation d'objectifs que malheureusement, j'ai l'impression que je n'atteins pas. Et au fil des jours, c'est d'autres objectifs que je me suis fixé qui s'accumulent à celles dont je me suis fixé avant. Et il y a longtemps, je me pose bien des questions. Comment y arriver à gérer tous ces objectifs? Je me sens.
Vous fixez quel genre d'objectif, Claude, hein, pour qu'on essaye de comprendre un petit peu d'où vient ce stress? Quel genre d'objectif? Par rapport à vous-même, par rapport à votre famille?
Par rapport à ma petite structure, par rapport à ma famille, par rapport à ma communauté. Par exemple, pas un exemple banal, en 2018.
Et on vous entend très très mal, Claude. Je ne sais pas, vous êtes juste à côté de l'appareil, vous parlez bien dans l'appareil ou vous vous éloignez parce qu'il y a des sortes de va-et-vient.
Voilà, excusez-moi, peut-être parce que j'ai un peu éloigné mon micro.
Oui, allez-y, oui. Alors dites carrément, parce que là, sinon, on n'a pas bien entendu. C'était quoi ces objectifs que vous étiez fixés?
Voilà, par exemple, je me suis fixé des objectifs en 2018, qui étaient celui de peut-être grandir encore un peu plus ma petite structure.
Votre entreprise?
C'est une petite structure. Dit qu'une entreprise, c'est un peu trop dit quand
d'accord,
même.
D'accord, d'accord.
Voilà. Et jusqu'ici, je n'y suis pas arrivé. Et il y a d'autres choses qui se sont ajoutées et qui sont empilées à ceux dont je me suis fixé avant. Et voyez-vous, à ce moment-là, je travaille sous une pression. Et je me demande bien comment bien m'organiser pour pouvoir...
Mais vous avez des éléments positifs dans votre existence, votre famille, vous avez des enfants, vous avez une maison qui vous appartient, vous avez des choses sur lesquelles vous appuyez, un petit peu matériel?
Tout à fait, j'y arrive. Mais j'ai l'impression d'accuser du retard. C'est surtout ça mais qui me donne du stress.
D'où ça vous vient justement cette propension à vous fixer ces objectifs? Vous êtes votre propre patron, vous mettez des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre, c'est difficile, c'est violent tout ça.
Ah ben écoutez, la vie est faite ainsi, on est obligé de se responsabiliser. Et quand on voit les gens autour de nous, on se dit pourquoi pas aussi. Donc on se fixe aussi des objectifs et c'est ainsi qu'on se retrouve dans ce stress dont moi je vous dis. Bon, j'ai l'impression de courir un peu après le temps, de ne pas faire les choses à temps et au moment où je me suis fixé. Du coup, je me suis senti un peu intéressé à votre thème.
Mamadou Mbodj, quand on entend Claude se fixer des objectifs, c'est bien, mais s'en fixer trop, c'est beaucoup moins bien.
Oui, se fixer des objectifs, c'est une très bonne chose. Il faudrait être réaliste maintenant. Ne pas en fixer trop. Déjà réaliser ce que vous... Le minimum. Vous disiez tout à l'heure que j'ai l'impression de courir... Je cours après le temps. Ben, arrêtez de courir après le temps, déjà. Hein, parce que ça ne sert à rien. Faites du temps un compagnon, quelque part. En vous disant qu'on travaille pour vivre et pour vivre bien si possible, mais qu'on ne vit pas que pour travailler.
Mama Dumbo, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire.
Oui.
C'est quand un patient vient, et à l'image de Claude, hein, on va être obligé de lui dire au revoir parce que la ligne est vraiment très très mauvaise, à l'image de Claude, quelqu'un qui vient, qui finalement énonce son problème, énonce la problématique, il a mis le doigt dessus. Je me mets la barre trop, je stresse, j'en ai marre. Alors pourquoi on n'arrive pas, on n'est pas capable de résoudre nos problèmes quand on les connaît?
Parce qu'on manque de recul souvent. On manque de recul, on manque de confiance en soi, on manque de recul, et quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Et je disais tout à l'heure qu'on prend le temps de nettoyer chez soi une fois par mois ou par semaine ou par jour. Pourquoi on ne le fait pas avec sa propre vie?
Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des enseignants, des parents, un cadre de vie qui nous impose cette pression permanente.
Oui, il y a toute l'éducation, il y a tout notre parcours, des pressions inutiles, inhumaines qu'on se met et qu'on ne peut, dont on ne peut prendre conscience et qu'on ne peut résoudre qu'en prenant du recul à un moment donné sur sa vie, en se disant que, mais après tout, là où j'en suis, c'est pas mal pour pouvoir continuer. Mais on a l'impression que plus on avance, plus moins c'est bien, d'accord? Du coup, ben, on se surcharge de projets, et souvent même qui ne sont pas réalistes, quelque part, et qui donnent le sentiment qu'on court après le temps. Or, le temps, on ne peut pas courir avec ça, ça ne sert à rien, je veux dire. D'accord? Il faudrait donc que vous vous arrêtiez un peu, revoir ses projets, voir ceux qui sont immédiatement ou à court terme réalisables, les autres les mettre dans le tiroir en attendant de pouvoir réaliser, de pouvoir naviguer sur ces projets déjà réalisés, et c'est comme ça qu'on avance. Mais si, dès le départ, vous avez une multitude de projets, je vais dire, et que finalement vous ne savez plus lequel est prioritaire, par lequel commencer, par lequel terminer, ben, vous n'allez pas vous en sortir. Vous aurez l'impression de tourner en boucle.
Réorganiser sans trop de pression. Voilà, on va partir pour le Bénin à présent, pour Cotonou, où l'on va retrouver Mickaël. Mickaël, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute. Bonjour, on espère que cette fois-ci la ligne va être bien meilleure. Mickaël, c'est à vous, allez-y.
Moi c'est Mickaël, j'appelle depuis Cotonou. Je suis étudiant en licence 3 d'économie et finance des collectivités locales. Alors, voici ma situation. Au lycée, j'étais un apprenant très brillant. Mais juste après le bac, surtout en première année d'université, mes notes ont considérablement chuté. Or, moi, j'aime toujours faire partie des meilleurs. Ainsi, en deuxième année, lors des examens, quand je révise super bien mes cours, le jour des examens, je suis hyper stressé. Je ressens la peur de mal transcrire les bonnes réponses sur ma feuille de composition. Cela provoque parfois le tremblement de mes mains. Aussi, j'ai un petit boulot que j'exerce à temps partiel. Et à ce boulot, il y a des heures de pointe. Et à ces fameuses heures de pointe, les clients affluent de tous les sens et ça me rend hyper stressé. Mais au boulot, ce n'est qu'au moment de faire le compte que parfois je ressens le tremblement de mes mains. J'ai souvent peur de faire une mauvaise recette. J'ai souvent peur d'avoir fait une mauvaise recette ou carrément d'avoir fait de mauvais comptes. Parce qu'au boulot, j'ai souvent affaire à de grosses sommes d'argent. Alors, voici mes questions.
Allez-y.
J'aimerais savoir s'il existe un lien entre le stress et le tremblement de mes mains. Savoir si mes tremblements de mes mains sont-ils normaux. Que dois-je faire pour diminuer mes sensations de stress? C'est fini.
Mickaël, on a bien compris quand vous avez expliqué, vous l'avez dit, ces tremblements de vos mains surviennent à des moments précis associés à une grande tension, c'est bien ça? Alors Patrick Fiorletta, je me tourne vers vous. D'abord sur le lien entre ces tremblements, on va dire c'est traduit de façon physique chez Mickaël.
Ben oui, le stress se manifeste quand il devient chronique. Il se manifeste de quatre manières. C'est les idées qui se troublent au niveau mental. Au niveau physique, il peut y avoir des tremblements, des douleurs, des choses comme ça. Au niveau émotionnel, ben, être un peu, on va dire, aller d'un pôle à l'autre, d'un extrême à l'autre, du pleur au rire, enfin, voilà. Et puis des comportements après qui peuvent être un petit peu addictifs ou des choses comme ça pour compenser. Là, on est visiblement, en tout cas dans ce qui nous est décrit, face à quelque chose qui est lié au stress. Et moi, je dirais même plus, je dirais à Michael de se méfier de l'épuisement. Parce que d'après ce qu'il dit, il n'a pas beaucoup de temps de repos. Et comme je l'ai précédemment évoqué, l'être humain, il a besoin de temps de repos. Pour respirer, par exemple, si il n'inspire pas à fond, il ne pourra pas souffler tout l'air. S'il ne souffle pas tout l'air de ses poumons, l'être humain, il ne peut pas remplir de l'air nouveau. Donc si je suis toujours en position inspiratoire, ben, je ne vais jamais renouveler l'air, mon organisme ne va pas bien fonctionner. Mais il en va de même là de l'activité. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir se poser, et c'est la même chose pour Claude, juste avant, c'est peut-être programmer des pauses, se donner rendez-vous avec soi-même dans la journée, peut-être 10 minutes, on parlait de sieste hors antenne tout à l'heure, avoir 10 minutes où on va être avec soi, dans une dimension d'être, c'est-à-dire poser son attention sur son corps, sur la forme de son corps, sur ce qui se passe à l'intérieur du corps, pour récupérer et peut-être respirer profondément, on pourra en reparler tout à l'heure.
Michael, est-ce que vous avez l'impression de vous écouter quand on vous entend parler? Moi, il y a une expression qui me vient à l'esprit, c'est on dirait que vous êtes à cran. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
Oui, un tout petit peu.
Est-ce que vous dormez? Vous dormez bien? Est-ce que vous avez l'impression, quand vous réveillez le matin, d'être reposé?
Oui, parfois. Bon, parfois, quand je quitte les cours et ensuite je vais au boulot, parfois, le matin, je ressens encore le besoin de m'endormir un tout petit peu plus, parce que je me sens encore un tout petit peu fatigué.
Patrick Fiorletta, est-ce que vous pourriez donner, justement, on entendait Michael qui était en quête de conseils pratiques, d'exercices, peut-être un petit conseil à faire, un exercice à faire sur quelques minutes par jour, ou voire un petit peu plus, pour reprendre cette fameuse respiration?
Ben oui, je pense que peut-être dans un endroit calme, se couper un petit peu, se mettre un peu en retrait dans la vie du quotidien, dans une salle à part, ou peut-être même dans les toilettes, tiens pourquoi pas, et puis s'asseoir et essayer par exemple d'expirer une dizaine de fois jusqu'au bout de l'expiration et laisser au moins l'air circuler librement dans les voies pulmonaires et puis ne faire que ça. C'est-à-dire porter votre attention sur la respiration et revenir à cette dimension d'être soi-même, avec soi, quelques instants. Je pense que ça fera le plus grand bien physiologiquement, c'est-à-dire au niveau de la circulation sanguine, du rythme cardiaque, au niveau de même la digestion, à tous les niveaux, ça peut apporter le plus grand bien, et pourtant ça n'est pas grand-chose. Encore faut-il se programmer des pauses dans sa journée.
Respirer à fond comme ça, se concentrer uniquement sur sa respiration, comment on y arrive justement quand les idées se bousculent, quand c'est vraiment la tempête dans la tête?
Ben c'est difficile, faut répéter plusieurs fois et au bout de 10 fois, on y arrive.
De la patience, il va falloir faire preuve de patience, Michael. Est-ce que vous en sentez capable?
Oui, bon, je vais essayer.
Mamadou Mbodj, je voulais ajouter quelque chose.
De magnanimité aussi, parce que vous êtes un homme bon, hein, bien, vous êtes un homme intelligent, ça ressort dans ce que vous dites, mais vous vous mettez des pressions supplémentaires inutiles. Vous y dites que vous avez de bonnes notes, mais que vous avez peur de ne pas être le meilleur. Il faudrait peut-être vous réconcilier un peu avec vous. Vous n'êtes pas oublié, on peut être bon sans forcément et réussir les choses sans chercher forcément à être le meilleur. Et je pense que vous pouvez même être le meilleur sans le rechercher.
Ça peut arriver par accident.
Voilà. Hein? Mais ce serait bien, je pense, parce que sinon, en recherchant coûte que coûte ce statut d'être le meilleur, tout ce que vous allez faire va paraître inutile, insuffisant à vos yeux, et du coup, vous vous rajoutez du stress, hein, chaque jour avec sa dose supplémentaire de stress, et vous n'allez pas vous en sortir.
C'est aussi une manière de se respecter soi-même.
Absolument.
Voilà, Michael. Très bonne journée à vous à Cotonou, au Bénin. On compte sur vous, hein, si ces exercices de relaxation, de sophrologie marchent, pour nous mettre un petit mot, pour dire que si vous sentez mieux, ça nous fera très plaisir. Et on va partir pour le Burkina Faso, pour Ouagadougou, où nous sommes en ligne avec Peter. Bonjour, Peter.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute, Peter. Allez-y.
Ok. Après une année de service dans une entreprise comme gestionnaire, j'ai décidé d'arrêter le travail suite à la pression que je reçois de la part de mon patron. Tout le temps, je suis stressé, je ne dors pas bien. Quand je suis à la maison, je ne fais que penser du travail. Je ne pense à rien à part le travail. C'est comme si je suis devenu l'esclave du travail.
Vous êtes obsédé par le travail, vous avez trop de pression et vous avez moyen d'en parler avec des collègues, avec quelqu'un, ou vous étiez tout seul face à cette situation?
La situation, bon, entre-temps, j'ai essayé de gérer ça tout seul, mais bon, après un temps, j'ai parlé à mes collègues, bon, mais je ne trouve pas de changement.
Et quand vous, Peter, quand vous alliez à l'école, vous aviez le même sentiment de stress ou c'est que depuis que vous êtes adulte et dans le monde du travail?
Non, quand j'allais à l'école, je n'avais jamais connu ça.
Mamadou Mbodj, qu'est-ce que vous pouvez dire à Peter? Peut-être lui poser d'autres questions pour aller un petit peu plus loin. Mais est-ce qu'il y a des gens comme ça qui sont complètement tétanisés, angoissés d'aller travailler?
Oui, mais peut-être que c'est lié finalement au travail. C'est lié aussi à la personne pour qui Peter travaille, je pense, et qui l'a finalement poussé à démissionner. Je pense que la relation était devenue toxique à un moment donné. Et que je pense que c'était une très bonne initiative. Je ne dis pas que cette initiative est valable pour tout le monde, mais dans le cas de Peter, je pense que c'était une très bonne initiative de démissionner, parce qu'il y a deux possibilités d'adaptation face à ce genre de situation. Ou on agit sur la situation même, l'environnement, la patronne, ou on essaie de s'accommoder de la situation autant que faire se peut. Et si aucune des deux solutions maintenant n'est satisfaisante, ne règle le problème, à ce moment-là, on essaie de s'extraire de cette situation. Et le meilleur moyen de le faire, c'est carrément de démissionner.
Mais Peter a besoin d'être rassuré aujourd'hui parce qu'il angoisse pour le futur.
Oui, mais il n'y a pas de raison. D'abord, partir du principe qu'il n'y a jamais de patron satisfait. Si vous en trouvez un, vous me direz. D'accord, c'est la nature des patrons. Donc, n'essayez pas forcément de satisfaire ce patron. Faites en votre âme et conscience, si maintenant, au bout de deux emplois, vous retrouvez les mêmes situations, peut-être qu'un bilan de compétences, si c'est possible, pour voir si le problème vient de vous, d'accord, en termes de compétences, ou une formation supplémentaire, d'accord, c'est tout. Mais je pense que vous avez très bien fait de démissionner, c'est pas pour autant maintenant que vous allez vous mettre à stresser pour le nouveau poste. Allez-y avec sérénité. D'accord. Il se peut très bien que ça se passe différemment.
C'est pas forcément un échec, d'accord. Et c'est mais se mettre dans une bonne disposition pour l'avenir.
Absolument. Mais arrêtez de chercher à satisfaire le patron, d'accord, ou à guetter les satisfactions du patron. Un patron n'est jamais satisfait.
Peter,
partez de ce principe-là.
Voilà ce message assez, assez inattendu de la part de Mamadou Mbodj qui fait de la psychologie sociale, pas comme les autres. On va terminer avec un dernier auditeur, c'est Jean qui est au Bénin, à Cotonou. Bonjour Jean.
Bonjour madame.
On est à votre écoute, allez-y.
Voilà, mon problème c'est que tout a commencé à partir de ma profession, de ma formation professionnelle. En fait, ma carrière envisagée, c'était d'être un ingénieur architecte. Compte tenu des moyens financiers, j'ai dû abandonner. Mm-hmm. Je me suis inscrit dans une faculté sur le campus. Donc là, je me retrouve pas du tout, je ne suis pas à l'aise. Au pire des cas, je rencontre mes collègues du secondaire qui sortent de cette formation et tout brillamment. Mm-hmm. Ça me donne de soucis. Parfois, je me demande, est-ce que je vais réussir dans ma vie? Est-ce que je peux être là où je dois être pour être à l'aise? Et je n'ai plus confiance en moi-même.
Et vous avez une activité, donc vous avez renoncé à ce projet qui vous tenait à cœur, faute de moyens. Vous avez une activité aujourd'hui?
Non, je me débrouille quand même, je me débrouille. Je fais des à-côtés. Je fais des à-côtés parce que je me suis retrouvé dans une faculté que moi, je n'ai pas du tout...
Et qu'est-ce que vous faites justement de votre quotidien? Il y a ces à côté, mais vous faites quoi justement pour surmonter vos problèmes, pour essayer de voir la vie sous un meilleur jour?
Bon, je fais des répétitions, des coups de maison. Je diffuse des coups de maison aux gens.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Jean Mamadou Mbodj? Un projet déçu, c'est difficile après de rebondir.
Déçu, on devait lui prêter de l'argent, il s'est pas venu. Je vais dire, trouver déjà un travail, quel qu'il soit, pour pouvoir espérer économiser. Mm-hmm. D'accord? C'est vrai que votre situation est angoissante. D'accord? Vous n'avez pas de travail, vous avez des projets, vous n'avez personne pour vous prêter de l'argent. Ben, la seule solution qui paraît être la plus simple mais qui est difficile aussi, c'est de trouver du travail. Pas le travail que vous voulez faire, mais quel que soit le travail que vous pourrez trouver, qui vous permette de gagner de l'argent et d'espérer pouvoir économiser ou, à la suite de ce travail, pouvoir vous adresser à une banque pour emprunter. Mais je veux dire que ça ne sert à rien de stresser parce que vous ne pouvez pas réaliser un projet pour lequel vous n'avez pas d'argent.
Voilà cette réponse pour Jean qui est à Cotonou au Bénin. On a des questions Facebook, notamment en cette période de la rentrée. Hein, question de la République démocratique du Congo, de Kisangani. C'est Claude qui dit « Ma fille de 5 ans va rentrer à l'école pour la première fois. Est-ce qu'on peut prévenir son stress ?» Et cette question plus générale. Est-ce que les enfants ont le même niveau de stress que les adultes ? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre. Mamadou Mbodj, est-ce qu'il y a des parents qui viennent justement inquiets ? On a même le cas extrême, c'est-à-dire des enfants qui ne veulent carrément pas aller à l'école parce qu'ils sont complètement angoissé. Qu'est-ce qu'on peut dire à ses parents?
Mais souvent, c'est que l'enfant est le dépotoir à ce moment-là du stress des parents.
On va dire le réceptacle.
Le réceptacle.
Vous êtes en verbe aujourd'hui, ça y va.
Le réceptacle, allons-y.
Voilà, voilà.
D'accord? Déjà que la mère elle-même arrête de stresser. L'enfant fait quelque chose de tout à fait normal. Elle est à l'école. Là, elle dit que son enfant va aller pour la première fois à 5 ans. J'ai appris ce matin.
C'est un homme, hein. Vous dites la mère. Oui. Moi, je dis le père,
oui,
hein,
le père.
Attention,
dit,
hein.
Le père, oui, que son enfant va pour la première fois à l'école à 5 ans.
Les pères aussi,
ans.
Ils nous peuvent nous donner pas mal de
maintenant,
stress.
Maintenant,
hein.
C'est à partir de 3 ans. J'ai appris qu'en France, ça va être à partir de 3 ans que les enfants vont aller à l'école.
Mais c'est déjà le cas, hein.
C'est déjà le cas. Oui,
c'est déjà le cas. C'est juste que ça devienne obligatoire.
Voilà.
C'est déjà
ça
le cas.
Ça devient obligatoire. Donc, je pense que déjà, en stressant moins, ça vous permet de tenir un discours rassurant. D'accord?
Mm-hmm.
Les premiers jours d'école, savoir aussi être un peu rassurant devant les refus, les résistances ou les manifestations d'anxiété de l'enfant. Ne pas forcer, savoir distraire l'enfant le matin lorsqu'il vous dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, etc. D'accord? Mais la première chose à faire déjà, c'est de ne pas lui communiquer votre propre stress, votre propre anxiété.
C'est important. Patrick Fiorletta, je ne vais pas vous stresser, mais hélas, on arrive presque à la fin de l'émission. On pourra en dire beaucoup plus hein, sur la sophrologie, sur ces méthodes de mieux se concentrer, mieux être finalement en harmonie avec soi-même. S'il y avait un mot de la fin, ce serait lequel ?
Un mot de la fin, et ben, ça serait de s'orienter vers le positif. Toutes les petites victoires, puisqu'on parlait du quotidien, tout ce qu'on peut fêter, célébrer comme petite victoire vis-à-vis de soi-même et qu'on vit très bien, ben les accumuler, les capitaliser, tous ces souvenirs positifs, j'allais dire, corporels en tout cas, et puis s'appuyer dessus, ben quand ça va moins bien.
Merci beaucoup Patrick Fiorletta, sophrologue Mamadou Mbodj, psychologue psychothérapeute à Dakar au Sénégal. Nutrition, alimentation, on en parle tout de suite avec vous Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Et on va voir avec vous quelle est l'importance de l'alimentation pour prévenir et aussi pour prendre en charge l'ostéoporose. Alors au départ bien sûr, qu'est-ce que l'ostéoporose et comment est-ce qu'on sait qu'on est concerné ou non par cette maladie?
Alors l'ostéoporose, ça se caractérise par une diminution de la minéralisation osseuse qui va provoquer une fragilisation des os et qui va entraîner un risque accru de fracture. Alors cette maladie touche principalement les gens qui ont plus de 50 ans, même si on s'aperçoit que la cible majeure de la maladie, ça va être les femmes post-ménopause, parce qu'en fait après la ménopause, la diminution de la sécrétion d'œstrogènes, des hormones, va fragiliser le tissu osseux. Donc il ne faut pas oublier aussi quand même, là on parle de pays où l'apport est suffisant en beaucoup de nutriments, qu'il y a pas mal de pays où l'apport en calcium est souvent déficient, et là on pourra avoir, du coup par cette déficience de calcium dans l'alimentation, des os qui vont perdre leur calcium pour le rendre à l'organisme pour compenser cette carence, et du coup on va avoir une ostéoporose qui va se créer par la carence en calcium, et ça il y a encore beaucoup de pays où c'est le cas. Donc chez nous, on va dire plutôt chez les gens post-50 ans, plutôt plutôt les femmes ménopausées, mais dans certains pays, on peut avoir de l'ostéoporose beaucoup plus jeune. Alors, cette maladie, elle est silencieuse, elle est très compliquée à diagnostiquer avant qu'arrive la complication. Et la complication majeure, c'est la fracture. C'est là où beaucoup de diagnostics vont se faire. Alors, pour la dépister, si on sait qu'une personne est à risque, il y a une méthode, une mesure qui s'appelle l'ostéodensitométrie, qui va permettre justement d'évaluer la densité minérale de l'os. Et c'est très important sur les personnes à risque de faire cette mesure pour savoir s'il faut intervenir ou pas.
Alors, quand on veut prévenir ou traiter l'ostéoporose, est-ce qu'on peut agir sur la nutrition ?
Ah oui, alors c'est central. Hein, la prévention de l'ostéoporose, c'est pas que nutrition. Comme on le dit toujours, c'est nutrition plus activité physique, toujours les deux. Alors, pour prévenir cette maladie, bah, l'activité physique régulière, hein, alors adaptée si on est sur des personnes un peu plus âgées. Maintenant, pour l'alimentation, ça va être supplémentation en vitamine D et en calcium. Alors, par contre, lorsque la maladie est diagnostiquée, c'est-à-dire qu'elle est présente, il y aura toujours cette supplémentation en calcium et en vitamine D, l'adaptation de l'activité physique. En plus, il y aura la réduction, voire l'arrêt du tabac et la diminution drastique de l'alcool qui les deviennent en facteurs additionnels. En plus de ces mesures liées au mode de vie, s'il y a un diagnostic, bien sûr, il y a des traitements qui doivent être pris. Alors, les traitements, en général, ils sont requalifiés, on va dire, on regarde au bout de 3 à 5 ans, voir s'ils sont toujours nécessaires ou pas. Par contre, les médecins disent très clairement que les mesures liées au mode de vie, alimentation et activité physique doivent perdurer permanemment. C'est le centre de la prise en charge. Alors, que l'on soit en prévention ou en traitement, il y a deux moyens. Hein. Il y a soit la supplémentation en améliorant l'alimentation, soit en prenant des compléments alimentaires à base de vitamine D ou de calcium. Les deux voies sont possibles.
Alors justement, pour ces deux apports, hein, calcium et vitamine D, quelles sont vos recommandations supplémentaires ?
Alors moi, je préfère recommander toujours en premier lieu d'aller vers l'alimentation. Parce que si on améliore l'alimentation, on n'améliore pas juste une seule prévention, une seule maladie, on améliore l'ensemble pour l'organisme. Donc c'est toujours mieux. Mais par contre, il faut être très clair, des fois ça peut ne pas fonctionner ou les besoins sont supérieurs. Donc en cas de besoin et que l'alimentation reprise et bien travaillée n'arrive pas à combler, eh ben il faut aller vers des supplémentations par cachet, par goutte, qui vont permettre d'améliorer ce qu'il faut en calcium et en vitamine D. Donc j'ai dit une approche en étapes, d'abord l'alimentation, essayer de faire au mieux et après de revoir avec le médecin s'il faut supplémenter en cachet ou pas.
Alors justement, quels aliments privilégier pour trouver le bon apport sur ces deux nutriments, un calcium, vitamine D?
Alors d'abord, pour la vitamine D, il faut rappeler qu'elle est aussi produite par l'exposition au soleil. Donc déjà, il faut s'exposer plus si on ne s'expose pas assez. En faisant attention, hein, on n'expose pas par exemple un petit bébé au soleil n'importe comment, en faisant attention. Mais si on est vraiment en sous-exposition, s'exposer un peu plus. Ensuite, bah, l'alimentation. On va avoir une alimentation diversifiée et dans laquelle il faudra absolument du poisson, des produits laitiers, de la viande ou des substituts à base de soja qui vont permettre d'apporter la vitamine D nécessaire. Maintenant, pour le calcium, on a un apport recommandé par jour d'à peu près 1 gramme par jour. Et pour ça, eh ben, la principale source, ça reste les produits laitiers, comme le fromage, le lait, le yaourt, qui sont d'excellentes sources de calcium, mais aussi les poissons gras, certains légumes verts, alors pas tous, mais comme le chou, les épinards, les légumineuses comme le haricot blanc, ou alors encore les amandes, qui vont être des sources de calcium intéressantes. Alors, pour les personnes qui ne mangent pas de produits laitiers, parce que c'est ce que les gens vont se dire, si moi, j'en mange pas, qu'est-ce que je fais ? Et bien à ce moment-là, on a tendance à recommander les autres aliments que j'ai dit, plus d'essayer d'aller vers une consommation d'eau minérale contenant beaucoup de calcium. Suffit de regarder sur la bouteille pour pouvoir compléter ça.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Priorité Santé touche à sa fin. La sophrologie, on en a parlé pendant l'émission. Pour aller plus loin, un lien internet à retrouver sur la page de l'émission. Et demain, nous allons parler du syndrome de l'intestin irritable. On se retrouve de là, demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.